Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Christian Estrosi.
Bonjour Christian Estrosi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. D'abord un mot évidemment de l'affaire d'Aulnay, sous-bois, ce jeune Théo violé, sérieusement blessé après un contrôle qui a dérapé. Pour vous qui êtes souvent enclin à prendre la défense des policiers, là il s'agit d'une bavure policière grave.
Très grave. D'abord j'ai apprécié cette visite du président de la République. Je crois qu'elle était essentielle et en même temps, c'est l'État. Et nous sommes un peu tous l'État derrière le président de la République qui sommes allés auprès de Théo. Un geste important et des paroles importantes de Théo, des membres de sa famille aussi, pour appeler à l'apaisement dans cette commune meurtrie d'Aulnay-sous-Bois. Les Français aiment leur police, ils le disent depuis notamment l'attentat de Charlie Hebdo. Et je dis que quelques voyous de la police qui seraient à l'origine de cette tragédie doivent être sanctionnés extrêmement lourdement. Un viol, c'est un crime, c'est un acte criminel. Et trois individus n'ont pas le droit de salir toute la police française.
Mais alors, comment assurer la cohésion sociale dans ces quartiers quand des membres de forces de l'ordre brutalisent ces jeunes? On dit qu'il faut plus de police de proximité, par exemple. Mais précisément, c'était la police de proximité à Aulnay-sous-Bois. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi, vous savez, la transversalité est très importante entre les associations qui jouent un rôle dans la politique de la ville, entre les forces de l'ordre, entre les moyens qui sont donnés pour pouvoir apporter par les systèmes de vidéosurveillance aussi, ce qui permet d'apprécier les situations à leur juste mesure.
Vous dites qu'il n'y a pas une réponse. Ce n'est pas seulement la responsabilité de la police, c'est la politique de la ville, c'est les moyens qu'on met à la disposition
de la sécurité. C'est pourquoi je dis toujours que la dimension sociale, que l'on soit de droite ou de gauche, est une dimension importante. Ne laissez personne sur le bord du chemin. Il y a aujourd'hui des territoires perdus de la République. Et il y a aujourd'hui des jeunes qui sont dans une situation où ils sont tout simplement abandonnés parce que leurs conditions familiales ne leur ont pas permis d'avoir un parcours qui leur ont donné une vraie chance de pouvoir se construire dans la vie. Ce sont des quartiers entiers qui se transforment en ghettos. Ce sont des territoires perdus de la République qu'il faut reconquérir avec de la mixité et où chacun doit trouver sa place.
Vous en parlez entre autres dans votre livre. Il faut tout changer chez Albin Michel. C'est un livre d'entretien. Parfois, c'est vif d'ailleurs, avec, comme le disait Yves Calvi, notre confrère Maurice Safran. On va en parler, mais François Fillon, lui, a décidé de ne rien changer. J'y suis, j'y reste, malgré les accusations de cette dernière quinzaine. Il s'entête, il a raison.
En tout cas, il a fait un exercice de vérité, de sa vérité. Il a dit des choses, il s'est excusé. Je ne vais pas vous raconter d'histoire lorsque je lis tous les jours des pages comme encore ce matin
où
on a l'impression que c'est un supplice chinois et un espèce de goutte à goutte qui fait un peu plus de mal à toute la classe politique française. Ça ne me fait pas plaisir pour autant et tout cela fait un peu plus de mal à la démocratie, à droite, à gauche, de partout. J'ai du mal à comprendre d'ailleurs comment le Front National, qui est le pire des dangers à venir, aujourd'hui ne se trouve pas frappé par tout cela, en tout cas devant l'opinion publique.
Vous voulez dire quoi ?
Devant l'opinion publique, alors qu'ils ont aujourd'hui des poursuites qui sont engagées contre eux, contre Madame Le Pen. Il suffit qu'elle dise au Parlement européen
à qui elle doit. Mais vous expliquez comment que ça glisse effectivement sur son électorat comme l'eau sur les plumes d'un canard.
Je n'arrive pas à me l'expliquer. Voilà pourquoi je crois que
on parle évidemment France, des assistants, des accusations d'emploi fictif de ces assistants parlementaires au Parlement européen.
La France est héritière de pratiques qui ont été utilisées par tous, malheureusement, en tout cas par beaucoup. Il y a, je crois, 90% d'hommes et de femmes politiques qui sont totalement intègres et qui n'ont rien à se reprocher. Mais il y a des pratiques. Et ces pratiques, les Français ne peuvent plus les accepter. Les Français, nous devons les entendre. Ça veut dire qu'il faut tout décaper. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui un grand nettoyage. Il faut des réformes profonde. Il ne faut plus accepter un certain nombre d'attitudes. Au fond, François Fillon n'a rien dit d'autre. Donc, puisqu'il nous propose ces changements, il faut les accompagner de toutes nos forces. Mais lorsque je vois une Madame Le Pen qui dit au Parlement européen qui lui réclame, avant le soir même, de rembourser 300 000 euros pour des emplois fictifs.
Pour un emploi fictif.
Je ne paierai pas. Lorsque je vois que même Madame Le Pen est renvoyée, en tout cas est convoquée par un juge d'instruction à Nice pour m'avoir sali en disant que je finançais le salafisme dans ma ville, et qu'elle n'a pas répondu à 4 convocations en disant les convocations des juges, je m'en fous. Et que ce même juge demande au Parlement européen sa levée d'immunité parlementaire et que tout cela reste dans l'indifférence générale. Vous savez, j'ai fait le choix.
Elle s'affranchit des règles, dit-elle, parce qu'elle ne respecte, elle ne reconnaît pas la validité de ces règles. Voilà.
Vous savez, j'ai fait le choix en décembre 2015, non pas de me présenter aux primaires, j'aurais pu l'envisager, mais de me présenter pour éviter l'élection d'une Le Pen, et sans doute la plus dure, Madame Maréchal Le Pen, au Sud. Ça a été un combat de 6 mois qui a sans doute été un des plus difficiles dans ma vie politique. Je l'ai emporté. Je sais ce qu'est combattre le Front National. Voilà pourquoi dans le débat qui s'annonce aujourd'hui,
vous qui êtes bien placé,
cette expérience, j'ai décidé de la porter.
Ce maintien de François Fillon, encore un mot, c'est pas un cadeau à Marine Le Pen, franchement. Vous les voyez pas fuir, les électeurs de droite de votre région PACA, vous les voyez pas fuir vers le Front National
François,
c'est pas un cadeau à Marine Le Pen.
François Fillon a dit des choses. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas un procureur. Je lis des choses qui ne me font pas forcément plaisir tous les jours. Je suis loyal à ma famille politique.
Mais vous dites dans votre livre, la présidentielle de 2017 est celle de la dernière chance pour réussir l'alternance et éviter l'extrême droite. Vous l'écrivez.
Pour ne pas être un fionniste et pour considérer que la campagne électorale, elle se gagnera avec l'addition de sarkozistes, de fionnistes, de juppéistes, de chiraciens. Au fond, une formation plurielle. Mitterrand a réussi comme cela. Chirac a réussi comme cela. François Hollande a réussi comme cela. Eh bien, j'entends faire entendre ma différence dans cette campagne électorale. C'est très clair à travers cet ouvrage.
Ça n'a pas été très, très bien perçu, d'ailleurs, quand vous avez dit « Je ne suis pas fionniste » au début du meeting de François Fillon.
Eh bien,
à Nice,
c'était pourtant une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, je vais continuer à la porter à travers cet ouvrage.
Pour expliquer le succès de l'extrême droite, vous reprenez un discours anti-système très à la mode, Christian Estrosi. Vous dénoncez le détournement de la démocratie par 10 000 personnes, je cite, qui se voient comme la seule élite de France et imposent une chape de plomb qui empêche de faire bouger quelques lignes que ce soit. Sérieux ? 10 000 personnes qui confisquent le pouvoir, c'est pas un fantasme ?
Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes gouvernés par une espèce d'aristocratie. Oh, ça n'est pas une aristocratie de sang ou ni du mérite, mais de la performance académique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'inventivité de l'artisan, pour le courage du paysan, pour l'esprit d'entreprise du petit patron, pour ouvrir le pouvoir aux citoyens. J'ai dû mener des combats pour moi-même être issu d'une carrière sportive incroyable, pour franchir toutes les étapes qui ont été les miennes, parce que nous sommes dans l'entre-soi, où chacun se distribue les responsabilités et tout est fait pour empêcher la réforme.
D'ailleurs, vous dites
on
souvent
ne veut rien changer. Vous savez, que ce soit la gauche qui soit au pouvoir, on l'a vu pendant 5 ans, il ne faut rien changer. Ouais. Que ce soit la droite qui soit au pouvoir, on l'a vu pendant de nombreuses années, il ne faut rien changer, surtout ne rien changer. Si on ne change rien, eh bien nous aurons l'émergence du Front National dans notre pays, au fond, c'est une dynastie qui vit sur le tous pourri comme tout le monde.
Vous dites, vous rappelez d'ailleurs votre surnom de motodidacte, vous vous êtes senti méprisé, vous ?
Je me suis senti méprisé parce que j'étais du Sud-Est, parce que je suis un petit-fils immigré italien, parce que je n'ai pas un parcours académique, parce que d'avoir fait sonner plusieurs fois la Marseillaise sur des podiums du monde, ce n'est pas une référence dans la vie publique de notre pays, et parce que à un moment, au fond, on a admis le principe selon lequel tous ceux qui ne sont pas issus d'un parcours académique ne peuvent pas exercer de hautes responsabilités. J'ai démontré qu'on pouvait l'éviter, d'autres le démontrent quelquefois, mais je veux encourager aujourd'hui le fait que on ne laisse personne sur le bord du chemin, que le bon sens du peuple puisse lui aussi participer à la gouvernance de notre pays.
Votre livre débute sur le récit de l'attentat de Nice. Vous reprenez, la charge est lourde, hein, contre Bernard Cazeneuve. Il nous manque un peu de temps, évidemment, pour entrer dans le détail. Vous le faites largement. Vous l'accusez, entre autres, juste un mot, d'avoir privilégié la sécurité de Paris ce soir-là aux dépens de la province. Vous avez des éléments ?
Tout ça fait partie de ce qu'il faut changer dans notre pays, que ce soit sur la fiscalité, sur l'économie, sur les élites, sur la lutte contre les communautarismes, la lutte contre le terrorisme. Il faut savoir qu'un élu, un grand élu d'un territoire, aujourd'hui, ne se voit pas communiquer l'état de la menace, n'a pas la charge de la sécurité, puisque dans les rassemblements de plus de 30 000 personnes, elle incombe au ministre de l'Intérieur et à son représentant, le préfet, et à lui seul. Et nous avons été, comme votre confrère Libération l'a titré, à un mensonge d'État. Alors que j'étais dans ma ville, j'y étais, là, sur cette scène de guerre, avec des papas, des mamans, des enfants dans les bras que j'essayais de consoler, qui sont meurtris à jamais, 86 morts, la chair, le sang de ma ville qui était sur cette promenade des Anglais. En face, je n'ai eu que des réactions où on nous a tenus à l'écart, où on a essayé de faire rédiger des procès-verbaux modifiables pour cacher la vérité, pour essayer de positionner sur un plan des policiers nationaux à un endroit où ils n'étaient pas. Tout ça est dit.
C'était le moment de la polémique ce soir-là. Est-ce que vraiment c'était indispensable pour vous quelques heures?
Pourquoi M. Cazeneuve a-t-il engagé la polémique?
C'est vous
pourquoi
qui l'avez...
Monsieur Cazeneuve,
c'est vous.
Pourquoi, Monsieur Cazeneuve? J'ai posé des questions. Combien de policiers? Quels moyens? Qu'est-ce qui a été engagé? Quel était l'état de la menace que vous connaissiez? Des questions que toutes les familles posent. Et ne pas y répondre, c'est engager la polémique. C'est ce qu'a fait le gouvernement. Et c'est, sans faire de reproche en quoi que ce soit sur le fait que malheureusement toutes les grandes démocraties sont menacées par des attentats et que bien évidemment le gouvernement français n'est pas responsable d'un attentat, mais responsable de mensonges. Nous voyons bien que les Français ne Merci. Veulent plus des mensonges. Pour cela, il faut des changements profonds dans la conception que l'on a de la gouvernance d'un pays.
Ce sont toutes les propositions de réforme que vous faites dans le livre. Il faut tout changer, chez Albin Michel, avec Maurice Safran. Merci beaucoup Christian Estrosi d'avoir été avec
Une
nous.
Une dernière réaction Christian Estrosi. Il y a quelques instants, François Bayrou a laissé entendre qu'il pourrait effectivement être candidat à l'élection présidentielle. Je n'hésiterai pas à prendre mes responsabilités. Mais il vient surtout de déclarer, à propos de François Fillon, « Jamais un candidat à l'Élysée n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent ». Que lui répondez-vous ?
Il a peut-être des données que je n'ai pas, mais je prends acte de ce que vous dites ce matin. Et après tout, les électeurs seront là pour trancher le 24 avril prochain, me semble-t-il.
Merci à tous les deux de l'entretien et comme chaque jour à retrouver sur le site rtl.fr.